France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose d'assez rare, un humoriste dont la tournée affiche complet partout, avec déjà plus de 450 000 billets vendus sur plus de 250 dates, dont 40 zéniths, et même deux Accor Arena à Paris les 10 et 11 avril 2026. Notre invité, c'est Paul Mirabel, on l'a découvert comme une évidence et depuis il n'a pas lâché, une exigence presque obsessionnelle, une écriture millimétrée, une manière unique de faire rire avec des silences, un débit et une fragilité apparente. Son nouveau spectacle s'appelle Par Amour et c'est un titre qui résume bien son univers, l'amour comme moteur, comme pansement, comme zone de danger aussi, un spectacle qui parle du couple, du désir, de la rupture, de la notoriété, des angoisses et de ce qu'on est prêt à faire ou à accepter par amour. Et comme les billets pour la tournée sont presque devenus c'est impossible à trouver aujourd'hui parce que tout est complet. Paul a choisi une idée folle et populaire, offrir une dernière chance au public en diffusant le spectacle au cinéma dans plus de 400 salles pour une séance unique le jeudi 28 mai 2026. On va parler de cette tournée, de son rapport au rire, de son écriture, de ce qu'il veut changer dans l'image qu'on a de lui, de ce que ça fait d'être devenu en quelques années l'un des visages les plus aimés du stand-up français. Paul Mirabel est avec nous à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Midi Maizy.
Comment ça va, Paul ?
Ça va, et toi ?
Ouais, très bien, je suis content de te voir ici.
Moi aussi, merci pour cette très gentille intro.
Bon, c'est la moindre des choses.
Ça me touche.
Parce que c'est vrai qu'au-delà de ce que je viens de dire sur toi, il y a effectivement, on avait d'ailleurs déjà parlé ensemble de notre émission, le fait que tu remplisses des salles extrêmement grandes et que ça ne désemplit pas. Comment tu vis ce moment-là, en fait ? Ce moment où tu sais, t'as commencé avec des petites salles, c'est le cas de la plupart des humoristes qui sont en début de carrière, et aujourd'hui, t'es presque habitué aux salles mastodontes. Est-ce que c'est devenu naturel et devenu normal pour toi de jouer devant autant de personnes ?
Eh ben écoute, j'ai fait... En fait, c'est marrant, mais je pense que dans la tête des gens qui viennent voir le spectacle, j'ai l'habitude de faire ça. Mais en fait, j'ai fait ma première très grande salle la semaine dernière à Lyon. C'était 10 000 personnes. Et donc, c'est la plus grande salle que j'ai fait de toute ma vie.
Mais tu avais déjà fait des salles quand même assez importantes auparavant. Je pense à des salles comme le Grand Rex. Enfin, c'est quand même pas forcément normal pour un humoriste de faire des salles aussi grandes.
Ouais, je t'avoue que je suis très content parce que, en fait, je me revois vraiment à 10-12 ans, je pense, au Virgin Megastore de Montpellier où j'allais acheter des DVD de spectacles.
Ouais.
Me dire, j'espère qu'un jour, je pourrais faire ça... dans des grandes salles, et là je suis en train de vraiment de toucher à cette période-là dans ma vie, donc je suis hyper content. Et surtout, enfin pareil, je sais que t'es très fan de foot aussi, j'ai vraiment l'impression d'être dans ma Coupe du Monde ou dans la Ligue des Champions. En fait, je sais que toutes les années qu'il y a eu avant, c'était l'entraînement, c'était des matchs, c'était de la pratique, et que là, c'est vraiment ce que j'attends et ce dont je rêve depuis plusieurs années.
Ça veut dire que toi, même plus jeune, tu rêvais des grandes salles. Ce qui est pas forcément quelque chose qu'on imagine quand on te découvre, tu sais, il y a toujours un peu cette image de toi qui serait réservée, etc. Je sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais toi, en tout cas, t'as toujours eu ce rêve-là de jouer devant 10 000, 15 000, 20 000 personnes. C'est ce que tu voulais, c'est vraiment d'avoir des salles énormes.
Bah en fait, moi, peut-être que c'est cet aspect-là que les gens n'imaginent pas, mais je suis très timide et réservé. Mais je pense que j'ai un côté sportif, compétiteur, voire même ego trip qui est un peu dans les
choses. C'est ton amour du rap, ça aussi, voilà.
Ouais, j'ai un peu un truc de, en fait, si on peut aller chercher plus grand, on va y aller, tu vois. Il faut s'en donner les moyens, hein, comme j'ai vu une phrase de Nino il y a pas longtemps, c'est Dieu qui donne, mais faut faire le boulot, je crois.
Ouais.
Ouais, franchement, je me suis dit, en fait, si j'ai pas envie de m'arrêter en chemin, si je peux taper plus grand, je vais tout donner pour le faire. Et j'ai pas envie de me donner de limites dans ce côté-là, en tout cas de mon métier. Après, je te dis pas qu'il faut que je fasse le Stade de France un jour pour être heureux. Je pense qu'il faut aussi à un moment se dire, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Mais là, je suis hyper aligné avec les ambitions que j'avais depuis quelques années.
Quand on est sur scène, est-ce qu'il y a une différence entre jouer devant 2000 personnes et jouer devant 10 000 personnes ? Est-ce que ça change quelque chose ?
Ouais, alors je suis en train de découvrir ce que ça fait de jouer devant vraiment beaucoup de monde. Je pense que c'est plus dur dans des petites salles, et c'est pour ça que je suis content d'avoir fait plein de petites salles pour maintenant avoir des meilleures armes, on va dire. Mais je pense que c'est comme si tu conduisais un petit bateau et un paquebot, tu vois. En fait, c'est le même métier, mais pas vraiment. C'est-à-dire que... En fait, les temps sont plus longs, t'es diffusé sur des écrans aussi, ce qui fait une grosse différence. C'est-à-dire que dans une salle, tu vois, de 1000, 2000, les gens voient pas forcément toutes tes expressions, alors que là, t'as toute la salle qui te voit en gros plan. T'as toute une logistique derrière. Là, on est, y a 5 camions sur la route. Tu vois, on est une équipe de 40 personnes. Donc, tout cet aspect-là aussi de prod est différent à gérer. Mais je suis content parce que je crois que je me suis préparé. J'ai fait toutes les étapes une à une pour arriver à ce moment-là. J'ai pas l'impression d'avoir grillé des étapes, tu vois.
C'est intéressant, ouais. La manière dont on parle, il y a vraiment quelque chose d'assez sportif. C'est-à-dire qu'en fait, t'es préparé pour ce moment.
Ouais.
Là, aujourd'hui, les gens qui nous écoutent n'ont pas l'image, mais t'as un maillot Manchester United floqué Cristiano Ronaldo, qui est un grand compétiteur dans l'âme et qui a toujours, justement, réclamé vouloir être le meilleur, en tout cas, et vouloir jouer devant, enfin, dans les plus grands stades et jouer les plus grandes compétitions. Est-ce que c'est des gens comme ça, en tout cas, qui, évidemment, toute promotion gardée, mais t'inspirent, en tout cas, dans cet esprit de se dépasser?
À 400%. Franchement, moi, la plupart de mes références, c'est des... Enfin, j'aime beaucoup le foot. Même,
tu joues bien au foot, d'ailleurs, je crois. Il y a des images de toi qui tournent.
Si on cherche bien sur Internet, on essaye. Même, tu vois, dans des... Je pense que je suis indirectement très influencé par la musique que j'écoute. Et comme j'écoute vraiment du rap toute la journée, je pense que ça joue forcément à un moment. Mais en fait, je conçois pas de faire ce métier en comment dire. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Faut arriver à être heureux à un certain moment, et je pense que d'être dans la quête du toujours plus, ça rend pas forcément heureux. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de limiter mes ambitions. Mais tu vois, c'est un choix qui a été réfléchi. Par exemple, je pense que sur le premier spectacle, on aurait pu faire quelques zéniths. Et en fait, je me sentais pas prêt. C'était peut-être pas le spectacle pour. Et je suis content de le faire à un moment où j'ai l'impression que c'est que ça tombe au bon moment, en fait.
Alors, tu as cité le titre de ton spectacle qui s'appelle Par Amour et t'as parlé de rap. Évidemment, quand j'entends Par Amour, je pense forcément à Dinos et à Diams.
Tes amis ne veulent pas, tu restes avec moi. Et même s'ils ont raison, nous la raison, on l'a perdu.
Amour, 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 c'est tout ce que t'as su dire. Par amour, par amour, par amour, par amour,
par amour, amour, cette distance, jalousie.
Par amour,
si j'y pense, toi aussi.
J'ai eu la chance de voir le spectacle. Tu termines le spectacle avec. Le titre du spectacle, c'est un hommage à ce morceau-là, à Dinos, à Diams, aux deux. Est-ce que t'as d'abord eu le titre et ensuite t'as pensé au morceau? Comment ça s'est passé?
Je savais que ça allait parler d'amour très tôt parce que c'est lié à une rupture.
Oui, donc t'en parles dans le spectacle, exactement.
Ouais. En fait, c'est ce spectacle. Je pense que c'est un aspect de ma vie qui prenait beaucoup de place. Puis il y a eu l'amour, on va dire. Puis il y a eu cette rupture qui a fait que je me suis dit j'ai vraiment envie de raconter ça sur scène. Et je tâtonnais un peu sur le titre. Et je crois qu'un jour je suis tombé sur le remix de Dinos, je connaissais la chanson de Diams et je me suis dit, en fait, déjà ça claque comme son.
Ouais.
Et
présent sur l'album Hiver à Paris de Dinos, ouais.
Exactement. Et je suis très fan de Dinos aussi, donc le fait qu'il ait samplé Diams, etc., je me disais, waouh, il y a un alignement de planètes. Et en plus, c'est Dinos qui avait fait la musique, qui m'avait fait l'honneur de faire un son exclusif pour le premier spectacle, qui avait fait la BO du premier spectacle. Et donc j'étais trop content.
Tout était aligné, en fait.
Voilà. Et je pense que le titre est arrivé naturellement après. Et je suis pareil, Diam, c'est une de mes artistes préférées, toutes catégories confondues. Donc je trouvais que ça collait bien.
À quel moment le rap devient aussi important pour toi? Parce que moi, je te connais depuis quelques années.
Ouais,
je t'avais même reçu dans une émission qui s'appelait Rap Jeu à l'époque. C'était un quiz autour du rap. On avait fait une autre émission avec Caris aussi. Enfin, c'est très naturel pour des gens comme nous de t'inviter avec des rappeurs. À quel moment, toi, le rap prend cette place dans ta vie? Parce qu'on voit, là, on t'en parle, que c'est vraiment important, en fait, et que ça influence même peut-être ta manière d'écrire, ta manière de concevoir ta carrière. Quand c'est devenu aussi important?
Je sais que pour des gens, tu vois, enfin, c'est bizarre à dire, mais peut-être j'ai pas la tête à écouter du rap, même si il y a pas de tête.
Je pense qu'aujourd'hui ça a évolué, mais oui, je vois ce que tu veux dire.
Mais je me rappelle, je pense que j'étais en troisième, un truc comme ça. Je suis parti en classe verte et il y a eu un micmac de chambre et je me suis retrouvé dans une chambre avec des mecs qui étaient dans ma classe qui à l'époque faisaient beaucoup de basket.
Ouais.
Et j'ai le souvenir très précis d'un jour, donc des mecs que je connais pas et je me retrouve dans leur chambre qui je me rappelle qui jouent sur une enceinte les premières notes de Steel Dre. que j'avais jamais entendu. Et je me rappelle avoir pété un plomb et dire, mais c'est quoi cette chanson, ça tue? Et eux, qui faisaient beaucoup de basket, étaient méga influencés par beaucoup de rap US. Moi, j'écoutais un peu ce qui se passait à la radio, tu vois, j'habitais en périphérie de Montpellier. Donc la musique que j'écoutais, c'était Énergie quand ma mère m'amenait au foot en voiture, tu vois. Et je me rappelle être rentré de classe verte et d'avoir écouté du rap pendant 3 jours. Et je crois que j'étais allé sur Emule à l'époque et que j'avais tapé genre Booba. Parce que
je savais que c'était un rappeur important, ouais.
Je passe comme si tu n'as jamais vu de film, tu dis bon, Star Wars, j'ai entendu ce truc-là. Et après, je cherchais, je voyais les feats, tu vois, je voyais qu'ils faisaient des feats avec Dossé. Je disais, ah, tiens, c'est qui ce Dossé? Et donc je me suis un peu documenté sur ça et après je crois que je pense que ça m'a même éduqué d'une certaine façon à ces âges-là, tu vois. Je pense que j'ai appris plein de trucs en écoutant plein de chansons et ça fait maintenant partie intégrante de ma vie. J'écoute que ça avant les spectacles, après les spectacles, bon, quand je travaille.
Tout a commencé du coup avec Style Dre.
Ouais,
cette prod incroyable. Ok, ouais. Et c'est drôle parce que alors, faut savoir que moi, ça commence aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que c'était pas en classe verte, mais en colonie de vacances. Et je me lie d'amitié avec un mec qui était très fan de rap, lui aussi, et fan de basket d'ailleurs, c'est drôle, et qui me fait écouter Tupac. Voilà. Okay. Et Tupac, incroyable. Je connaissais de nom, un peu comme toi, peut-être tu vois, tu connaissais Dr. Dre de nom. Et en fait, je trouve ça trop bien. Et quand je rentre, je demande à un pote qui a internet, moi j'avais pas encore internet, de me faire une compilation en tapant plein de noms de rap au hasard. Et c'est là que ça commence, tu vois. Donc, c'est aussi avec une rencontre en vacances, tu vois. Je propose qu'on écoute. Ben, c'est un peu classique, un peu cliché plutôt en tout cas, mais qu'on écoute Par Amour de Diams,
ouais, vas-y,
qui est un morceau présent sur Dans Ma Bulle, deuxième album, enfin son troisième album d'ailleurs, qui est l'album où elle rencontre le grand succès mainstream, Diams, Par Amour.
Poupée, avec l'amour, t'as pris la poudre des scampettes, t'as désiré le coup de foudre, t'as dit bonjour à la tempête, poupée, t'étais cette fille au pays des merveilles. Tu lui as ouvert ton cœur plutôt que de t'ouvrir les veines, je sais, t'as vu en lui ce que seul toi pouvais comprendre. T'étais petite, il était grand, il était tendre, je sais. Et puis pourquoi se justifier, l'amour ne s'explique pas. Ni même le sang que l'on retrouvera chez toi. Par amour, par amour, par amour, c'est tout ce que t'as su dire. Par amour, par amour, par amour, rien n'est impossible. Par amour, par amour, par amour, c'est tout ce que t'as su dire. Par amour, oh oh. Poupée, t'as débarqué seule sur un quai de gare. Tu venais d'ici, de là-bas et t'allais nulle part. Poupée, t'avais de grands yeux bleus mais cernés de noir. C'était peut-être la raison de ton départ, qui sait. Lui il a vu que t'étais frêle, que t'étais vraiment dans la merde. Il t'a dit t'es trop belle, viens je t'emmène. Poupée, à cet instant c'est devenu ton mentor. Ils avaient tort, les gens, l'espoir existe encore. Tu sais, ton innocence lui a transpercé le cœur. Tu étais son évidence, il était ton âme sœur. Je sais, rien ni personne ne peut juger les gens qui s'aiment, ni leur désir, ni même la folie qui les traîne. Poupée, elle était loin cette solitude dans le wagon. Prison dorée, t'as pris perpète dans son lagon, poupée. Chez lui, c'était le paradis sur terre. T'as même retrouvé le sourire brûlé dans une petite cuillère. Par amour, par amour, par amour, c'est tout ce que t'as su dire. Par amour, par amour, par amour, rien n'est impossible. Par amour, par amour, par amour, c'est tout ce que t'as su dire. Par amour, oh oh. Poupée, tu étais devenue sa seule héroïne. Vous alliez vous en sortir, poupée, sans égoïsme, je sais. L'un pour l'autre, vous disiez adieu à l'enfer, adieu aux rêves éphémères qui coulaient dans vos veines, poupée. Bientôt la vie, sans poison ni artifice, de l'amour, de l'eau fraîche et des rires sans acide, je sais. Tu étais belle, poupée, tu étais sienne, tu étais reine, et belle et bien debout dans un monde qui crève, poupée. Il y a des choses que la vie n'explique pas, il y a des êtres que la mort te prend et ne te rend pas, poupée. Cette voiture, cette vitesse, et ton homme sur le pare-brise, au volant, une triste femme en crise, tu sais. Elle aussi avait trouvé l'homme de sa vie, mais l'a retrouvé dans son lit avec sa meilleure amie, poupée. Dans sa voiture, elle a cru pouvoir oublier, oublier de freiner et affaucher ton bien-aimé, poupée. S'il te plaît, ne cède pas, relève-toi. Tu le retrouveras au paradis, il t'attendra, poupée. Tout le monde sait que sans lui, ce sera dur. Tu as perdu ton issue, le seul remède à tes blessures, poupée. S'il te plaît, ne fais pas ça par amour. Arrête, pose cette arme, ne teste pas ta bravoure, poupée. Repense au lagon. Repense à vos rêves. Pourquoi tiens-tu ce canon si proche de tes lèvres, poupée ? perdent par amour, à tous ces cœurs qui tiennent par amour, à toutes ces femmes qui restent par amour, à tous ces hommes qui se cachent par amour, à toutes ces vies gâchées par amour, à tous ces gens qui crèvent par amour, et à tous ceux qui survivent par amour.
C'était Diams donc avec son morceau classique Par Amour, extrait de l'album Dans ma bulle.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Nous sommes avec Paul Mirabel jusque 23h. Et Paul, on va bien sûr continuer à parler de toi, ton actualité, ta carrière. Mais avant ça, je vais t'énoncer des phrases sur toi. Tu vas me dire si elles sont vraies ou pas.
Ah ouais, ok.
On va essayer de te connaître davantage.
Ok.
Des choses qu'on peut imaginer de toi. Paul Mirabel manque de confiance en lui. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Oui. Je ouais. pense dans l'absolu, ouais. Sur certains trucs, non, mais je pense que je doute beaucoup. Ouais. J'ai pas très confiance en moi dans plein de choses. Donc j'essaie de le solutionner par des trucs concrets. Tu vois, le travail. Le travail, ça me rassure beaucoup. Quand je me sens pas en confiance sur certaines choses, j'essaie de suivre un peu les règles et le processus pour me dire qu'il y a un chemin, on va dire, qui est rassurant.
Est-ce que le succès te fait prendre confiance en toi? Le fait de se dire, bon, mais en fait, ça marche, les gens aiment ça. Est-ce que ça te permet de gagner des points de confiance?
Je pense que, je sais pas si je dirais le succès, mais le fait d'avoir des gens qui te signifie qu'ils aiment bien ton travail, que ça les touche, et moi d'avoir l'impression que je fais bien mon travail, me donne confiance en moi. Mais je pense que si j'avais eu, peut-être c'est un exemple bateau, mais si j'avais eu une petite boulangerie dans le sud de la France et que les gens me disaient vos croissants sont super bons, je pense que ça aurait pu me procurer la même chose.
Ouais,
c'est pas forcément le nombre la quantité, mais
c'est la reconnaissance en tout cas de ton travail, de tes compétences.
C'est le fait d'avoir d'avoir travaillé dans mon coin et de me dire ce que j'ai imaginé dans ma chambre et sur mes cahiers touche certaines personnes et que j'ai un retour direct de ça.
Paul Mirabel aime être célèbre?
Non.
Je m'attendais à cette réponse.
Franchement, déjà, je sais que c'est bizarre à expliquer. Ben, c'est la phrase de Jim Carrey qui dit « Tout le monde devrait être riche et célèbre une minute pour voir que ça... » C'est pas la solution d'être riche et célèbre, je crois que c'est ça.
Ouais, il avait dit quelque chose comme ça. Ça me parle, ouais.
Et moi, déjà, c'est un peu... J'ai mis longtemps à m'en rendre compte, mais c'est un peu contre ma nature, tu vois. C'est-à-dire que ça peut paraître bizarre, mais je suis très mal à l'aise d'attirer l'attention quand je suis pas sur scène. Et encore sur scène, t'es caché derrière ton micro, t'es caché derrière ton texte et tout, mais tout ce qui est, par exemple, je sais pas, les anniversaires, les... Tu vois, les trucs où les gens...
T'as pas quand les lumières sont sur toi, hormis quand t'es sur scène, évidemment.
Enfin. Si je suis avec des gens très proches, que je connais très bien, et ça me va, mais après, je suis assez mal à l'aise. Enfin, je suis assez gêné socialement, tu vois, j'essaie de me faire le plus discret possible. En plus, c'est paradoxal, parce que je suis grand.
Ouais, on te remarque,
quoi. J'ai du mal à me cacher un peu. Je vais pas faire le gars, j'ai jamais voulu ce succès et tout, parce que je veux que mon travail marche. Après, c'est vrai qu'il y a des à côté qui sont parfois un petit peu délicats à gérer. Je peux pas m'en plaindre du tout. Il y a aussi plein de côtés cool, tu vois, et je suis content quand je te dis une bêtise. Ça m'est déjà arrivé, même un petit mot gentil de quelqu'un qui dit « je vous ai vu là », ou qu'on te facilite deux, trois trucs, c'est toujours agréable. Après, il y a certains aspects qu'il faut gérer, mais... Je pense que c'est juste un truc à gérer, quoi.
Mais c'est drôle parce que tu sais, souvent, il y a beaucoup d'humoristes qui nous disent, quand ils étaient petits, parfois c'était eux les mecs marrants du groupe. Tu sais que parfois aussi faire rire, c'est une manière d'être accepté dans un groupe, de se faire remarquer. Toi, c'était pas ton cas? Est-ce que t'étais le mec marrant ou est-ce que tu faisais pas tout pour te faire remarquer, si je comprends ce que tu dis?
Moi, j'étais vraiment, si tu trouves que je suis timide là, enfant, j'étais vraiment timide maladif, quoi. Ouais. C'est-à-dire que vraiment parler devant, c'est pareil, hein. Je sais que c'est peut-être ça, quand j'en parle à des gens, les gens me disent qu'ils n'y croient pas, mais jusqu'à vraiment très tard, hein, jusqu'à, je pense, 20 ans, 21 ans, jusqu'à ce que je fasse du théâtre, à vrai dire. Vraiment parler devant ma classe, c'était un supplice, quoi. C'était vraiment les pires souvenirs que j'ai à l'école, c'est faire des exposés devant ma classe, devenir tout rouge, avoir le prof qui m'interroge et tout. C'était assez compliqué. Et en fait, je crois que je faisais rire les pareils. Dès que j'ai des gens dont j'étais devenu proche, tu vois, mes vrais amis d'enfance, ma famille, les gens qui me connaissent bien et avec qui je me lâche un peu plus, qui est un peu toujours le cas, je pense que je les faisais rire.
Il fallait que tu sois à l'aise dans un cercle pour pouvoir justement faire rire les gens, en fait.
Ouais. Okay. Et je pense que j'avais toujours, tu vois, j'ai le souvenir, pareil, au lycée, on était placés par ordre alphabétique. Et donc, j'ai été pendant assez longtemps à côté des mêmes personnes dans l'année. J'ai vraiment le souvenir d'être le sniper de ces deux personnes. Mais dès que ça dépassait le cadre de deux personnes, je mourais de honte, tu vois.
Okay,
mais je pense que j'ai toujours aimé faire des blagues, ouais.
Paul Mirabel est avec nous jusque 23h. Paul, tu viens de mentionner quelque chose, c'est le théâtre.
Ouais.
Justement, à quel âge tu commences à faire du théâtre et qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que c'était ta décision à toi? Est-ce que c'était tes parents? Tu sais que parfois on nous oblige à faire des choses quand on est petit. Moi, j'ai fait de la flûte traversière, tu vois. Est-ce que c'était un choix délibéré ou c'était quelque chose qu'on t'a imposé?
En fait, pour te faire la version très courte, mais j'ai essayé de faire de la scène pour plaire à une fille qui était dans ma classe.
C'est toujours une histoire de fille,
ouais,
Paul, en fait.
Toujours une histoire de meuf au début.
C'est ça, en fait. Hein.
Quand j'avais 19 ans, je suis monté 3 fois sur scène. Et c'était mon rêve depuis petit. Et ensuite, j'ai dû continuer mes études, une partie à l'étranger. Donc pendant 3 ans, j'ai arrêté de faire ça. Et au moment où je suis rentré en France et où j'avançais un peu plus dans mes études et où le CDI concret se rapprochait de plus en plus, je me suis dit, en fait, je veux vraiment pas faire ça. Et j'ai commencé à faire des petites scènes ouvertes et j'ai eu la chance qu'il y ait un partenariat dans l'école que je faisais avec le cours Florent, qui te permettait, en fait, dans un but, je pense, d'être plus à l'aise dans la vie de tous les jours, pas forcément d'en faire ton métier, de suivre des cours au cours Florent. Et moi, j'ai suivi ce cursus-là. Donc j'avais, je pense, 21, 22 ans. Donc c'est quand même arrivé assez tard et ça m'a fait gagner du temps pour la scène, je pense, parce que ça m'a aidé, tu vois. En fait, je sais pas comment je peux dire ça. Si pour moi commander un café c'était 7 sur 10 sur l'échelle du stress, le jour où on te fait réciter un texte devant des gens que tu connais pas dans un costume et qu'on te dit crie et pleure, commander un café ça passe à 1. Et donc, en fait, ça m'a
réévalué ton stress. Était
déstressé, ouais. Et même, ça m'a appris aussi une sorte... J'ai eu vraiment la chance d'avoir une prof très, très difficile. Le premier jour au cours Florent, je me suis fait pourrir devant tout le monde. J'ai pris la honte de ma vie. Et en fait, ça m'a matrixé à me dire, je veux plus jamais décevoir cette personne. Et donc, ça m'a forcé à bosser comme un ouf pendant un an.
Donc tu la remercies ou pas a posteriori?
Ah ouais, franchement, je l'ai recroisé quelques années après, on en a discuté et tout, et je sais que c'était comme les joueurs de foot qui disent j'ai eu un coach.
J'allais dire pareil, ou les pères de le papa de Thierry Henry ou David Beckham qui ont été très durs avec eux.
Exactement. Et ben je sais que je la remercie d'ailleurs, elle m'a grandement aidé et en fait ça m'a donné une rigueur de travail. Tu vois, même c'est tout bête, mais quand je vois des humoristes en comedy club qui arrivent, qui n'ont pas écrit leur texte, qui ne l'ont pas appris par cœur. Chacun a ses méthodes de travailler. Et moi, je sais que juste d'apprendre un texte par cœur, comme tu apprends un texte de théâtre, ça m'a fait gagner peut-être 2 ans, tu vois. Parce que tu arrives la première fois que tu le joues, ton truc, tu le connais déjà. Et donc, en une semaine, tu peux savoir si c'est bon ou pas, alors que ça aurait pu me prendre 6 mois si je ne l'avais pas appris.
Je crois que aussi dans tes références, tes influences, il y a eu peut-être aussi quelque chose d'un déclic avec Gad Elmaleh quand tu l'as vu. Est-ce que c'est un des premiers qui te donne envie vraiment de faire rire les gens, en tout cas de monter sur scène?
Ouais. C'est le spectacle L'autre c'est moi.
L'autre c'est moi. Mais je crois que c'est le moment aussi où il devient vraiment extrêmement populaire. Ouais. Qui est son troisième spectacle, si je ne dis pas de bêtises, après La vie normale et Décalage, je crois.
Exactement. Ouais. Et en fait, donc c'est en 2005, donc je dois avoir 10-11 ans. Et ce qui me paraît fou, c'est de me dire qu'il y a un gars dans ma télé que je connais pas. et qui me décrit le pot à l'entrée de mon salon avec les clés de la valise,
ouais,
tu vois, ou qui me raconte quand il va chez Ikea, qui sont des trucs qui me sont arrivés, et je ne connais pas ce mec, et pourtant j'ai l'impression qu'il raconte ma vie d'enfant de 11 ans. Et après, je crois que je me suis développé une passion pour l'humour, tu vois. Pareil, moi je pensais que c'était normal. En fait, je rentrais, je regardais que des sketchs, je regardais que des comédies, tu vois. Je connaissais plein de films par cœur, plein de spectacles par cœur. Mmh. Et je pensais que c'était un truc comme aimer le foot ou aimer, je sais pas.
Alors que non, en fait, tu étais en train de développer une forme de passion, de centre d'intérêt, mais tu t'en rendais pas compte forcément à l'époque.
Ouais, je me rendais pas compte que c'était un peu niche. Tu sais, j'étais convaincu que tous les autres enfants de mon âge connaissaient par cœur des spectacles d'humour. Et en fait, moi, je trouvais ça tellement fou que je me suis vraiment passionné. Pour ça, jusqu'au moment où je me suis dit, j'ai envie d'essayer. Et je pense qu'au fond, ça a toujours été là, au fond de moi, de me dire, je veux faire ça.
Est-ce que l'autre, c'est moi, reste aujourd'hui encore une forme de spectacle référence ultime pour toi?
Ouais, complètement. Ouais. Enfin, tu sais, c'est marrant, c'est pareil, c'est la même chose. Je sais pas ce qui fait un classique. Il y a des gens qui disent, je pense que le temps, l'intemporalité fait que c'est des trucs que tu peux regarder après et qui bougent pas.
Comme les albums, comme.
Ouais. Exactement. Et je pense que ça fait complètement partie des spectacles qui sont pour moi des. J'espère un jour pouvoir toucher à ce niveau-là en termes de.
Quelque chose qui reste, ouais.
Ouais, c'est trop fort. Même je le revois maintenant et tout. Je me dis, mais en plus, ça dure 2 heures. T'as l'impression, tous les sketchs sont cultes. C'est vraiment, je trouve ça fou, quoi.
Bon, Paul, on a dit que tu aimais beaucoup le rap français. Est-ce que tu écoutes aussi du rap américain?
Un petit peu moins, mais ça va.
Tyler the Creator? Pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Bon, et ben c'est pas grave.
Je t'écoute. Je suis ravi d'écouter.
Et ben on va écouter un morceau issu de son dernier album qui est sorti par surprise l'été dernier. Et le morceau s'appelle Ring Ring Ring. On s'écoute tout de suite Tyler the Creator. I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some food, don't be a stranger. I know it's hard though. Taylor the Creator avec Ring, Ring, Ring.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Alors, on est avec Paul Mirabel. Paul, on l'a dit bien sûr, l'actualité, c'est la séance du spectacle, séance unique le jeudi 28 mai 2026, dans plus de 400 salles. Mais aussi, autre chose qui arrivera cette année, je crois qu'on peut au moins en dire un mot puisque la news est sortie, c'est une série qui va s'appeler Paul, sur Prime Video, dans laquelle tu joueras ton propre rôle.
Ouais.
Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Est-ce que ça va être une série, j'imagine, qui va être drôle? Est-ce qu'il y a eu des références, des influences pour ça? Et ça nous permettra après de peut-être de parler aussi de séries dans lesquelles des comédiens ou des humoristes jouent leur propre rôle. Mais toi, est-ce que quelle envie t'avais derrière ce projet?
Alors, j'ai pas trop le droit d'en parler pour l'instant, mais je peux quand même te dire des petites exclus parce qu'on se connaît depuis.
Ça me fait plaisir.
Tard l'époque. Non, c'est un projet qui me tient à cœur parce que ça faisait quelques années que je faisais que du stand-up.
Ouais.
Donc en fait, mes journées, c'était juste trouver des blagues pour la scène, etc. Et que j'avais un peu ce truc-là de me dire, en fait, on peut mettre des blagues dans d'autres formats, que ce soit la radio ou là, pour le coup, la fiction. C'est un truc que j'ai fait avec des gens très proches, des gens qui m'accompagnent depuis quelques années en réalisation et en écriture. Donc c'est un projet vraiment de base
entre potes.
Entre potes, ouais. C'est ça qui a fait qu'on a réussi à s'amuser et à aller au bout de ce truc, je pense. Et ouais, c'est une fiction dans laquelle je joue mon propre personnage, on va dire, et dans laquelle il se passe plein d'aventures. J'ai essayé de mettre pas mal de mes kiffs dedans. Il y a du rap, il y a du stand-up.
Okay.
Il y a même des histoires, tu vois, que je voulais mettre dans le spectacle, mais qui rentraient pas dans le format spectacle, donc on a mis dans la série. Et voilà, écoute, je suis hyper content d'avoir réussi, je sais pas, mais d'être allé au bout de ce truc-là.
Ouais.
Et ça sort normalement dans l'année 2026.
Dans l'année. Bon, très bien. Eh bien, alors, justement, ça nous permet peut-être de parler de certaines séries qui sont cultes, dans lesquelles, justement, des humoristes ou des comédiens jouent leur propre rôle. Tu me diras si ça te parle ou pas. Et je pense que si on doit poser pour moi la pierre fondatrice de ce genre-là, ce serait avec Larry David, qui était donc auteur sur Seinfeld, série mythique des années 90. Mais la série Curb Your Enthusiasm, en français Larry et son nombril, l'a rendu immortel. Dans la série, ça c'est tu connais ce générique ou pas?
Ouais.
Générique mythique, qui est même utilisé pour illustrer des mèmes sur Internet. Donc dans la série, Larry joue Larry David, un milliardaire producteur, socialement inadapté, incapable de respecter la moindre convention sociale. Il ne sait pas mentir, il ne sait pas faire semblant, il ne sait pas être poli quand il pense que quelqu'un est insupportable. Et la magie de Curb, c'est que plus Larry est sincère, plus il devient insupportable. Il ne fait rien de mal au sens moral, mais il viole en permanence les petits pactes invisibles qui font tenir la société. Dire merci, sourire, faire semblant de comprendre, laisser passer. Résultat, il est constamment puni par le monde qui l'entoure. Et ce qui est génial, c'est que la série brouille tout. On ne sait jamais si Larry David est vraiment comme ça, ou si c'est une version exagérée de lui-même. Est-ce que ça te parle, cette série? Moi, pour moi, c'est une série qui est extraordinaire. On en parlait juste avant l'émission avec l'équipe. Vraiment, je suis un grand fan de cette série. Je ne sais pas si tu as pu regarder Curb Your Enthusiasm.
Écoute, je connais de nom. J'ai jamais eu l'occasion de regarder.
Okay.
Mais j'ai toujours été très fan, typiquement, des séries dans lesquelles des humoristes ou autres jouent leur propre rôle. Platane, on se parlait de Dave.
Ouais, Dave, effectivement, qui est une série américaine avec Lil Dicky, qui est un rappeur qui joue son propre rôle et qui est vraiment pour moi très influencé par justement Larry David, mais dans un milieu rap aussi.
Exactement.
Ça, c'est une série qui t'a plu.
Ouais. Bah, ça reprend tous les codes de trucs que j'aime bien. Désordre de Florence Foresti. Je trouve que c'est une arène qui te permet de te parodier et d'avoir beaucoup d'autodérision sur plein de trucs. Et c'était la bonne façon aussi, j'ai l'impression, de commencer de la fiction, qui est un tout autre métier que la scène. Et en tout cas, pour moi, c'était la façon la plus simple de mettre un pied dans ça, c'était d'avoir une arène que tu
maîtrises, mais dans laquelle tu... Oui, ok.
Tu vois, enfin, je te caricature le truc, mais... si tu commences avec le Comte de Monte Cristo et que tu dois faire un film d'époque de 2h30, pour moi, ça me paraît
plus compliqué que ce que tu as fait là. Ouais. Okay.
Même si c'est compliqué de jouer son propre rôle et on est encore en pleine fabrication de tout ça, mais en tout cas, ça me tenait vachement à cœur et je suis un grand fan de Platane, Dave, Désordre, tout ça.
Bon. Je voulais parler de Platane, mais tu l'as un peu évoqué. Il y avait aussi la série de Gad Elmaleh, Eugene France, qui était sur Netflix. Et est-ce que ça veut dire que toi, t'as... Là, ce que tu as l'air de dire, c'est que Bon, tu as fait beaucoup de stand-up, ton travail c'était de trouver des blagues, comme tu le disais. Est-ce que ça veut dire que la fiction, c'est l'évolution logique pour toi, que tu as envie, il y a cette série qui arrive, mais que tu as envie aussi d'investir le cinéma, enfin la télévision ou les plateformes, mais à l'avenir, que c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire?
J'aimerais bien que ce soit une branche ou une flèche à mon arc.
À ton arc, ouais, je crois que c'est ça.
Ouais, c'est ça. Une flèche à mon arc supplémentaire, c'est-à-dire que pour l'instant, je lâcherai jamais la scène. C'est vraiment... C'est ce qui me rend le plus heureux, je crois, d'écrire des blagues et d'être sur scène. Après, c'est vrai que pour éviter une forme de redondance et je pense pour avoir d'autant plus très envie de monter sur scène, je pense que c'est bien d'avoir des petites aérations à côté. Le cinéma en fait partie, l'écriture de fiction en fait partie. Voilà. Mais je pense que c'est juste un... En fait, ce que j'aime, c'est faire rire des gens et faire des blagues. Et je pense que tout ça, que ce soit sur scène ou en fiction, rentre dans ce sac-là. Donc voilà. Mais j'aimerais bien, oui, continuer à développer ça.
Est-ce que quand on a un premier spectacle qui a autant marché, tu sais, puis on parlait de ça, évidemment, on n'a pas vraiment parlé de ton style aussi, parce que tu es aussi arrivé avec un style d'élocution, ta manière de faire des vannes, dans les silences que tu laisses. Quand tu es parti sur l'écriture de Par Amour, le spectacle suivant, est-ce qu'il y avait justement cette peur de redire la même chose, de se répéter? Et comment, si elle était là, comment tu as réussi à la contourner?
Il y avait forcément une peur de la deuxième œuvre, parce que, en fait, de ce que j'ai toujours entendu, c'est la...
C'est comme le deuxième album, ouais. Toujours ça, toujours la comparaison avec le rap. Ouais. Et c'est vrai que quand t'arrives avec un classique ou un album qui marche, c'est compliqué d'échanger, en fait, d'enchaîner plutôt.
Et surtout, en fait, le premier, je crois que la plupart des choses que tu fais pour la première fois, tu sais pas vraiment comment t'as fait, tu vois. Moi, je me rappelle écrire des bribes de sketch dans des cafés. J'avais pas forcément de thème, j'avais pas forcément de savoir-faire, et en fait j'ai tout collé, ça a fait un spectacle. Ouais. Mais par contre, quand tu dois refaire ça et que tu te poses devant ta feuille et que tu dis mais comment j'ai fait pour faire un spectacle, là c'est plus compliqué. Mais j'étais pas inquiet d'une autre façon, parce que de un, il m'était arrivé des choses dans la vie dont j'avais envie de parler, c'est-à-dire que j'avais vraiment un truc au fond de moi qui me disait ça, il y a une matière à creuser. Parce que je pense que mine de rien, j'avais acquis un peu d'expérience. Et surtout, un truc qui m'a vachement aidé, c'est que j'avais l'image que les gens ont de moi. J'avais parfaitement conscience de ça. Et donc, en fait, ça aurait pu être un désavantage. Mais moi, où ça m'a aidé, c'est que je me suis dit, je vois très bien ce que je représente dans la tête de certaines personnes et des gens qui sont venus voir le spectacle. Et donc, je sais exactement ce qu'il faut faire pour faire le pas de côté. Tu vois, c'est-à-dire que... Je sais pas, pareil, je te fais une comparaison en rap. Si les gens si j'étais un rappeur et que les gens me caricaturaient avec le même flow, fait, il suffit juste
un morceau différent
pour me dire ouais, j'ai qu'à changer de façon de rapper, en fait, pour que les gens se disent waouh, il a complètement changé de style, tu vois. Et moi, pareil, vu que les gens me voyaient, enfin, ce qui était le cas, hein, mais je parlais vraiment lentement. J'avais peut-être des sketchs qui racontaient un aspect un peu fragile, etc. Je me suis dit, ok, c'est ça l'image que les gens ont de moi. Donc j'ai qu'à parler d'autre chose et parler un peu plus vite pour le casser. Et ça s'est fait aussi naturellement. C'est ça qui me rassure. C'est que je ne l'ai pas fabriqué, ce truc-là.
C'est qui le rappeur qui t'inspire le plus?
Écoute, il y en a plusieurs sur plein d'aspects différents. Moi, je suis très fan des... Pareil, j'aime pas l'expression et désolé pour ça. Les rappeurs à texte, ça veut rien dire. Mais
t'as failli dire les lyricistes, je suis sûr.
Non, ça c'est le nom d'une playlist sur une plateforme dont on ne citera pas le nom. Mais je suis très fan de certains rappeurs qui amènent une façon de traiter un texte. Je pense à, je sais pas, Aurel San par exemple. Tu vois la façon dont il dissèque un thème qui est proche du stand-up, hein, d'ailleurs. Tu sais, je trouve qu'il y a certaines punchlines qui pourraient complètement être des blagues dans des spectacles et inversement. Et après, enfin, je sais pas, il y en a plein. Aurel San, Nekfeu, Nino, pour tout un autre aspect, pareil. Tiens, retiens, j'aime bien.
Très bien.
Non, mais plein de rappeurs. Écoute, franchement, j'écoute quasiment de tout et chacun m'inspire à différents niveaux.
Paul Mirabel, Booba, évidemment. Enfin, tous ces rappeurs français qui justement aussi changent dans leur carrière. Tu as cité Booba, c'est aussi quelqu'un, parce que tu parlais de contre-pied, c'est quelqu'un qui l'a fait un peu toute sa carrière, justement.
Ouais, bien sûr. Et même la façon d'évoluer, tu vois. Enfin, pareil, je compare beaucoup à la musique, mais c'est vrai qu'il rappe pas de la même manière maintenant qu'il y a 20 ans.
Il y a 20 ans, bien sûr.
Il a su s'adapter aux codes de son époque. Même, tu sais, tu prends un SCH qui à chaque album change de DA un peu. Ouais. Je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois, la façon dont ils défendent de leur projet Et voilà, j'aimerais tendre vers ça. Et j'ai l'impression qu'il y a eu ça entre le premier et le deuxième spectacle, tu vois, que c'est pas la même chose, ouais. Tout en restant un peu moi, donc je suis content.
Tu vas pas faire un album de rap?
Non, je te ferai pas cet affront.
Bon, moi, c'est pas grave, hein, mais c'est pas moi qui va être directement touché, mais on sait jamais, non. Tu pourrais avoir envie.
J'ai trop de... Écoute, j'ai trop de respect pour l'exercice pour me placer dans cette posture-là. Si j'avais eu ce talent...
T'as déjà tenté, à vous. Non, tous les fans de rap, on a déjà essayé d'écrire un petit couplet un jour.
Ouais, peut-être quand j'avais 14-15 ans, mais ouais. Non, j'aime bien ma place de spectateur.
Très bien. Paul Mirabel est avec nous jusque 23h. Alors, évidemment, le spectacle s'appelle Par amour. Tu l'as un petit peu dit en introduction, mais la notion d'amour est omniprésente dans ce spectacle, parce que l'amour était pendant ta vie, qu'il y a eu cette rupture, c'est ce que tu as expliqué. Est-ce que ça a été douloureux de parler de ça, ou est-ce que c'était uniquement simple, parce que c'était une nécessité d'amener ces thèmes, peut-être plus matures, plus adultes aussi peut-être. C'est comme, tu sais, le deuxième album, parfois c'est l'album de la maturité. Ouais. C'est une phrase extrêmement éculée et clichée, mais peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Est-ce que pour toi c'était juste normal et naturel d'aller sur ce terrain-là?
En fait, je pense que sur le premier spectacle, je savais pas de quoi parler. Tu sais, en fait, tu sais, c'est tout bête.
C'est juste des vannes, en fait. C'est presque une succession de vannes au départ, sur le premier spectacle. Il y a un peu ça au début.
Ouais, en fait, je pense que le fil conducteur, c'est le personnage, entre guillemets. Ouais. Et le spectacle est hyper modulable. Tu vois, j'aurais pu, le début pourrait être à la fin. Enfin, c'est tenu, je pense, par un personnage, même si j'ai essayé de mettre un petit fil conducteur. Le deuxième, ce qui était plus simple. Disons que sur le premier, je suis parti des blagues. Et j'ai essayé d'en faire des thèmes. Sur le deuxième, j'ai fait l'inverse. Je suis parti des thèmes et je me suis dit quelle blague je peux trouver dans ce sujet-là dont j'ai envie de parler. Et en fait, les thèmes étaient quand même assez clairs assez rapidement. Et ça part de vraiment d'une histoire qui m'est vraiment arrivée. Donc peut-être que comme il y a du vécu derrière, c'était plus simple. Mais je l'ai abordé de façon différente. Après, j'ai suivi un process de travail qui était le même que sur le premier. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de comédie club. J'ai testé chaque sketch, entre guillemets, du spectacle. Et après, en fait, c'est comme si t'allais à la même guerre, mais avec des armes différentes et des meilleures armes.
Et tu te sens plus fort aussi, peut-être, parce que t'as plus d'expérience. Est-ce que ouais. t'as le sentiment aussi, tu sais, d'être un meilleur joueur, tu sais, parce que tu t'es peut-être plus entraîné, t'as joué plus de matchs, tu sens ça en toi que t'es plus fort qu'il y a 4 ans.
Ouais, complètement. Ouais. Je sens que j'ai plus d'XP, tu vois, j'ai passé plus de temps sur scène, j'ai un meilleur niveau, je mets moins de temps à faire certains trucs, j'ai été confronté à plus de cas de figure différents, tu vois. Et aussi, il y a, je pense, ce truc tout simple de, en fait, plus tu consacres de temps à une activité, plus tu deviens meilleur, ouais. Tu vois, et là...
Les fameuses 10 000 heures, ouais, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit, ouais.
Ouais, tu vois, sur ce spectacle, j'aurais fait, t'en as parlé tout à l'heure, je crois qu'à la fin, j'aurais fait quasiment 250 dates, donc ça me fait un nombre d'heures sur scène qui est considérable par rapport au premier, et j'espère que ça ira dans ce sens-là pour les prochains spectacles.
Paul, on parlait de rap, et alors... Je te pose plein de questions. Est-ce que tu écoutes aussi du rap québécois?
J'écoute des rappeurs montréalais, ouais.
Ah bah, parce qu'il y a un rappeur montréalais, moi, que j'aime beaucoup, c'est de Loud, okay. Qui a sorti un album il n'y a pas longtemps.
Ah ouais,
et je propose qu'on écoute un morceau issu de son dernier album qui s'appelle Sans Retenue. Pour moi, c'est un des meilleurs rimeurs francophones.
Ok.
Voilà, je le dis. Donc, on écoute un morceau issu du dernier album qui s'appelle 12 sur 12, Loud dans la régulière.
Sport vole au-dessus des nids de poule. Top down like I free the nipple. Ces rappeurs sont mes fils, c'est des népos. S'ils ont la vision, c'est parce qu'ils sont sur mon épaule. Bright light, ça a l'air d'être du CGI. Mais les gars font du vrai dos, pas du CDS. On mettra pas des freebies dans le frigidaire. Donc le prix d'aujourd'hui, c'est pas le prix d'hier. Few stacks sous l'oreille, New Ralph, pas l'oreille, let's get. J'ai mes factures payées, j'ai la coiffure pénilesque. Elle a les good looks et les good looks. Nouvelle définition de l'être cher. Lifestyle qui l'a corrompu. Elle dit qu'elle aime pas les rappers, ça tombe bien, moi non plus. Je retiens mon souffle s'il y a de la jalousie dans l'air. Je retiens les noms s'il y a des faux parmi les frères. Je prends soin des miens, pareil que je retienne ma mère. Pour le reste, sans retenue. Sans retenue. Sans retenue.
sans retenue quand on flex, fuck un humble brag. Sans retenue quand ton ex m'en un autographe. Sans retenue quand on retire off a handle cash. Couple racks pour aider lui, ça c'est des couple racks. Straight out of cup and nag. Sans retenue quand on cup, we just popping tags. Faut traverser la planète pour voir ses shopping bags. Tous mes copycats devront trouver leur propre swag. Nuage de laine dans mon americano. J'suis dans la Chevy Tahoe, j'réfléchis à voix haute. Est-ce que j'me paye le soleil pour la nouvelle année? Pour toutes ces années où j'rêvais de voir un silver lining. Quand j'avais sans rêve, mais j'étais sans revenu. J'pouvais même pas get une job ou même une entrevue. Maintenant j'l'ai fait payer pour le privilège. Le prix d'aujourd'hui c'est pas le prix d'hier, c'est sans retenue. Few stacks sous l'oreille, new Ralph, pas l'oreille, let's get. J'ai mes factures payées, j'ai la coiffure peignée, let's get. Elle a les good looks et les good looks. Nouvelle définition de l'être cher. Lifestyle qui l'a corrompu. Elle dit qu'elle aime pas les rappers, ça tombe bien, moi non plus.
Je retiens mon souffle s'il y a de la jalousie dans l'air.
Je sais c'est quoi ta mélodie, c'est de la jalousie.
Je retiens les noms s'il y a des faux parmi les frères.
Mais ton problème c'est que t'oses
pas. Je prends soin des miens, pareil que je retienne ma mère.
Essaye, prends ta chance.
Mais pour le reste, sans retenue.
Sans retenue.
Sans retenue. Sans retenue. Sans retenue. Sans retenue.
Loud, sans retenue donc, morceau d'un rappeur québécois issu de son album 12 sur 12.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Et on va continuer à parler de musique, car c'est l'heure des recommandations. Et tu en as envoyé une, on l'a un peu évoqué, c'est Ninho et son dernier projet en date, MILS 4.
Fuck Young Tech, fuck Lil Uzi. Les gros chocs, prod, freeze, bousy. Challenge fini au Sénégal avec une baraque balèze comme Lil Bousy.
Je suis ailleurs, j'ai grandi dans le trafic. On fait compter dans le graphique. Intérieur, beige. Un peu comme tous mes élastiques. Jeune, négro, millionnaire. Chicago comme billionnaire. Des liasses. Comme si j'avais dit dictionnaire. Je suis ailleurs, j'ai grandi dans le trafic. On fait compter dans le graphique. Intérieur, beige. Un peu comme tous mes élastiques. Jeune, négro, millionnaire. Chicago comme billionnaire. Des liasses. Comme si j'avais dit dictionnaire.
On achète tout pendant le boulot.
La manière dont Ninho dit beige. J'adore, ah ouais. J'adore. Ça c'est un extrait donc du morceau Dictionnaire qu'on featuring avec Freeze Corleone. Pourquoi MILS 4 de Ninho?
C'est le truc le plus récent que j'ai écouté.
Ouais.
Moi je suis fan inconditionnel de Ninho depuis longtemps. Je sais pas la façon dont il gère sa DA, sa carrière, même tu sais certains trucs de certaines je sais pas certains lyrics sur la mentalité qu'il
ouais.
a dans le game. Le côté, j'ai l'impression qu'il a la même équipe depuis longtemps, qu'il a ses gars.
Ouais, la loyauté, tout ça.
Ouais, même, le côté ambitieux, entrepreneur me parle beaucoup. Et voilà, je savais qu'on se voyait que,
ouais.
et que je me voyais pas faire une reco par rap dans son émission.
Est-ce que est-ce que c'est de la musique aussi que t'écoutes pour te motiver? Je sais pas si tu vas à la salle ou.
Ouais.
Parce que Ninho, il a ça aussi, je trouve. Il a ce côté un peu motivational music, tu sais, qui te donne envie
ouais.
de te dépasser. Est-ce que c'est ça que t'écoutes quand tu fais du sport, par exemple, quand tu te prépares avant une scène?
Ouais, au sport à fond. Et vraiment, j'ai mes écouteurs, moi, quasiment jusqu'au dernier moment avant de monter sur scène. Et j'écoute, il y a beaucoup de Ninho dedans, ouais.
Ok.
Ouais, tu vois, ça excite un petit peu et ça motive pas mal. Donc, pour ça que je recommande ce quatrième projet de Mills.
Alors, dans les groupes. Et artiste de rap important des 10 dernières années, je pense qu'il y a un duo aussi, je crois que tu l'as écouté évidemment, comme nous tous, duo du 91 qui s'appelle PNL.
Boule, oh shit, ton mal, mon bien. Ouais, pour les miens. Ouais, le monde ou rien. Ouais, moi ça me convient.
Paul, est-ce que pour toi c'est l'hymne de la décennie 2010? Moi, pour moi, je crois que c'est ça.
Ah, je pense que c'est un des trucs qui a le plus marqué le rap français, ouais, sur ces dernières années. Pareil, fan inconditionnel, moi. Il nous manque énormément.
Est-ce que tu aimerais, parce qu'effectivement, il faut le dire, PNL, donc il n'a pas sorti de projet depuis 2019, qui est parti avec deux frères, qui magnum opus, enfin, c'est assez parfait de partir comme ça un peu au sommet. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui souhaitent un retour du duo, ou tu dis que c'est parfait comme ça et qu'ils ont assez donné?
Non, je pense qu'en tant que bon fan, je préférerais qu'il sorte quelque chose, même s'il y a 1% de chance que ce soit décevant. Mais ouais, écoute, je pense que ça abîmera pas ce qu'ils ont fait avant. Et il y a aussi l'option où c'est trop bien aussi.
Oui, bien sûr, évidemment.
Mais ouais, c'est en fait pareil. Comme ils ont rien sorti depuis longtemps, j'ai réécouté ça et il y a quelques temps, je me suis dit, je crois que sur le moment, on s'est pas rendu compte à quel point c'était
exceptionnel,
novateur et trop fort et hors du temps, je pense.
Ouais. Et c'est vrai que, est-ce que toi, quand on est artiste, là, je pense qu'avec PNL, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont construit une œuvre qui va rester, en fait. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Parfois, il y a des choses très bien, mais ça reste pas forcément. C'est dur de passer l'épreuve du temps, de faire de la musique atemporelle. Est-ce que quand on est artiste comme toi, on pense à ça, à l'héritage qu'on peut laisser, ou en tout cas, à l'ambition de faire des choses atemporelles? On en parlait tout à l'heure avec l'autre C'est Moi de Gad Elmaleh, qui est sûrement un spectacle qui a traversé le temps. Il n'y en a pas 10 000 des spectacles comme ça. Est-ce que c'est une ambition, un objectif, ça?
Ouais, j'essaie de me dire quand je fais certains projets, ou même, tu vois, que ce soit des choses pas forcément liées au spectacle directement, mais que ce soit, je sais pas, des interviews, tout ce qui touche à mon activité, de me dire que je vais pas le regretter dans quelques années.
Okay.
Et après, je pense que c'est peut-être plus compliqué pour l'humour, parce que j'ai l'impression que l'humour est peut-être plus périssable que la musique. Je pense que déjà, tu peux écouter une chanson en boucle 200 fois. Peut-être que c'est un peu moins le cas sur
un spectacle,
tu vois. Et après, je pense que l'humour est vachement aussi lié à l'époque, même si dans les chansons, il y a certaines références liées à notre époque. Ouais, j'aimerais bien. Écoute, je sais pas si c'est quelque chose que je conscientise quand j'écris des blagues, de me dire ça, j'aimerais que ça reste pendant longtemps et je vais mettre de l'énergie dans cette blague pour qu'elle dure. Okay. Mais si dans 20 ans je regarde des trucs que j'en ai pas honte et que les gens me disent ça me fait toujours autant rire, je serais hyper content. Mais je pense vraiment que c'est l'intemporalité qui fait le
classique.
Qui fait qu'une œuvre devient classique ou pas.
Paul, c'est l'heure de la question qui tue.
Ah ouais?
Eh oui. Ça, c'est vraiment une question compliquée que je t'ai donnée.
C'est vrai?
Mais on en a un peu parlé en début d'émission. Enfin, tu as abordé ce sujet-là. Paul, aujourd'hui, nous sommes en janvier 2026. Est-ce que tu es heureux?
Ouais. Je te réponds. Ouais, écoute. Faut que je développe.
Tu peux? Si t'en as envie.
Je suis heureux parce que, pour plein de raisons, déjà j'ai eu 30 ans il y a pas longtemps, je me sens un peu apaisé. C'est-à-dire que ça, c'est bizarre, je sais pas si t'as eu ça, ça m'a mis un petit coup. Et du coup, je vois un peu la vie autrement depuis. C'est tout bête, hein, mais ça fait que quelques mois depuis que j'ai passé ce cap. Je suis content parce que j'ai l'impression que le travail que je fais depuis quelques années, pour quelque chose qui me stresse beaucoup, qui m'angoisse beaucoup au quotidien, à savoir mon métier, se concrétise et je suis à l'endroit où j'avais envie d'être il y a quelques temps. Écoute, je suis en bonne santé, je crois. C'est quand même assez important. Les gens que j'aime sont en bonne santé et vont bien. Et je crois que j'ai réussi à trouver un équilibre entre le pro et le perso, qui fait que même s'il y a des moments compliqués dans les deux, tu vois, et parfois dans le perso et dans le pro, et que c'est un gros rythme très intense avec une grosse tournée, j'essaie de me dire que c'est quand même le fruit de beaucoup d'années de travail et qu'il y a beaucoup de gens qui seraient très heureux de pouvoir vivre ça. Donc j'essaie de de profiter de ces moments-là. Donc oui, je suis heureux. Si Montpellier remontait en Ligue 1, je serais encore plus heureux. Et bon. S'il y a certains rappeurs qui n'ont pas fait d'album depuis longtemps qui revenaient, je serais encore plus content.
Bon, Montpellier, PNL, et on est content.
Et on est content.
Merci beaucoup, Paul, d'avoir été là aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Coy. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Selim Guerribi et Guillaume Roux. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, on aura une émission consacrée à David Lynch qui nous a quittés il y a un an. Pour découvrir, redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France. Merci Paul.
Merci, j'espère que t'es heureux aussi. Je t'ai pas posé la question.
Pas du tout, je suis très malheureux.
Ah ok.